past Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. As a hustle and Lenny Wilkins leads the floor.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Money Time. Money Time, c'est votre émission basket sur Graphite, dans laquelle on décortique l'actu de la balle orange et où on décrypte la culture basket sous toutes ses formes. Money Time a aussi sa page Facebook, hein, qu'on vous invite à découvrir et à liker, ainsi qu'un compte Insta que vous pouvez aller visiter, sur lequel on partage 2 ou 3 trucs avec vous. Et aujourd'hui, toute l'équipe de Money Time est heureuse de vous proposer une émission spéciale consacrée à la Big Apple. New York, ses gratte-ciels, son décor de cinéma, du Lower East Side à Harlem, de Tribeca au Bronx en passant par Times Square. On va vous plonger dans l'ambiance de Gotham avec une bande-son spéciale et des clins d'œil à la culture new-yorkaise. Alors, qui dit New York dit Knicks, et qui dit Knicks dit New York. Alors, désolé pour les fans des Nets, hein, la seule équipe de New York pour nous, ce sont les Knicks. Bien sûr. Et forcément, on va se plonger dans le passé et le présent de cette franchise mythique au travers de joueurs et de noms indissociables du Madison Square Garden.
Conduis-toi comme un homme! Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? C'est ça ce que t'es devenu? Un jeune premier d'Hollywood qui pleure comme une femme? Oui, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire! Qu'est-ce que c'est que ces façons? Tu passes du temps avec ta famille?
Bien sûr, parrain.
C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Viens ici. T'as une mauvaise mine. Je veux que tu manges. Et je veux que tu te reposes, et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle.
Non, c'est trop tard. Ils vont tourner dans une semaine.
Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
Bon, alors, pour vous concocter cette émission, j'ai fait appel à ce qui se fait de mieux dans le milieu de la pègre new-yorkaise. Alors, messieurs, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Alors, je tiens à préciser que dans le studio, on a de la vieillesse et on a de la jeunesse. Hein, puisqu'on a quand même 3 groupies là, qui sont là. Voilà. Hein, donc, ouais. On ne dira pas leur identité, mais on a voilà, 3 jeunes filles qui sont, nous accompagnent pour cette émission.
Hyper concernées en plus.
Exactement, elles lisent un bouquin, un BD. Voilà. Alors justement, je vous présente, messieurs. Hein, dans le milieu, on l'appelle Buffalo et Doigts de Fée. Méloman
à dans quel milieu? C'est vrai que c'est douteux dit comme ça. Il y a un truc. Hein.
Mais alors, continue, Méloman, vas-y, continue. Ne me coupez pas.
Pour de la flûte.
Voilà. Je vous laisse juger. Hein. Méloman à 6 heures perdues entre 2 contrats. Il bosse proprement et ne laisse presque pas de traces. Voilà, et à côté de lui, on a Bruno Lambrouille. Qui est, lui, moins conciliant. Alors, cet homme froid comme une lame de rasoir ne transige pas avec la rigueur. Et il vous le prouvera dans sa rubrique Logo Story.
Bonsoir, Don Pascal.
Attends. Alors, c'est l'exécuteur maison, le type qu'on envoie pour formuler une offre qu'on n'a pas trop intérêt à refuser.
Le nettoyeur.
Mehdi l'enclume. Il est connu pour ne pas prendre de gants et il ne nettoie pas derrière.
Salut voilà. Les potos.
Il en faut des comme ça. Il en faut.
Alors, la face clean du business, l'avocat, la Tom Hagen, celui qui blanchit les bêtises des autres en faisant avaler des couleuvres, à bout parleur, et notre éminence grise, qui va arriver un peu plus tard, c'est Rémi au gant blanc.
Bien présenté.
C'est bien annoncé.
On a encore un guest, hein, mais il n'est pas présent parce qu'il est le représentant de nos intérêts en dehors du studio et qu'il doit mouiller le maillot pour faire ses preuves. La relève, celui qui héritera sans doute du business familial une fois qu'il aura éliminé un à un les capots précités autour de cette table, c'est Matt the Kid.
Yeah, Matt.
On va s'arranger, Matt, t'inquiète pas.
Et enfin, l'homme qui tire les ficelles, hein, les cheveux gominés. Ah non, 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 merde, il en a pas. Le parrain de l'émission, bien calé dans son fauteuil, un verre de scotch à la main, un barreau de chaise dans l'autre. Digne successeur de Pat Riley, c'est Don Pasquale. Ou WAM, pour les habitués de l'émission. Alors messieurs, justement, tout au long de cette émission, et en filigrane de nos rubriques habituelles, hein, l'actu de la balle orange, logo story, un joueur, une histoire, le buzzer beater, et la rubrique sneakers, on vous proposera des références et un fil conducteur clair, hein, la Big Apple et son histoire d'amour avec le basket, sous fond de cinéma, de séries et de musique. Et d'ailleurs, messieurs, vous avez reconnu évidemment l'extrait.
Complètement.
Du parrain. Ouais.
Le parrain.
Alors le premier, il y en a trois.
Sinatra. Le premier. Voilà. Oui.
Ouais. D'accord. Et Sinatra, effectivement.
New York.
Voilà. Musique, oui.
Donc à chaque fois qu'on aura un petit jingle, je vous inviterai. Alors je précise qu'à chaque fois qu'il y aura un petit extrait de film ou de série, il y aura la bande son derrière, elle fait toujours référence à un artiste new-yorkais.
D'accord. Alors, donc à nous de retrouver.
New-yorkais, donc ce sera à vous de le...
Ça sort de blind test en fil rouge.
Exactement. D'accord. Voilà. Bon, on commence tout de suite avec la rubrique Actu. Alors, l'actu de la balle orange, on va commencer avec quelque chose qui, voilà, vous ne pouvez pas passer outre, c'est les NBA Paris Games. Évidemment, même France 2 s'y met. Du coup, on l'évoque rapidement avec vous. Victor Benyama, Wembanyama, je vais réussir à le dire, pardon. Ça fait trop de syllabes.
Vas-y Wemby, ouais, c'est.
Et les Pacers d'Indiana de Tyrese Haliburton, hein, dont on s'est bien foutu de la gueule pendant plusieurs émissions.
On
vient avec le cas du Mets.
Ils n'ont jamais été aussi forts.
Voilà. Viennent pour deux matchs et ça suscite une hype énorme. D'ailleurs, c'est quand même, à la différence des années précédentes, des éditions précédentes, une opposition qui est digne d'intérêt, hein, puisque on n'a pas comme une année Milwaukee-Charlotte, on a quand même deux équipes.
Ah, il y a Détroit il y a quelques années. Oui, c'est vrai que les deux équipes viennent vraiment pour jouer deux matchs de saison régulière qui sont importants, parce que Indiana veut continuer sa remontée à l'Est. Moi, je pense qu'ils vont finir, j'espère qu'ils vont finir dans le top 4, parce que c'est quand même une équipe qui est super sympa à voir.
Normalement, on devrait les voir, là.
Et les Spurs, qui sont sur une mauvaise pente, qui sont dans le négatif, ouais, là, ils sont plus du tout à 50%, et ils commencent à avoir deux ou trois matchs de retard.
C'est embêtant.
De retard sur le play-in, et ouais, les deux matchs seraient très bons à prendre pour notre Français.
Dur de gagner deux fois de suite contre une équipe, hein, on le sait, même en play-off, mais
moi,
en plus, ce qui est étonnant, c'est les trajectoires vraiment opposées, là, tu le disais, mais...
Un petit un partout, je pense qu'il y aura égalité.
Moi je pense que Indiana ils sont quand même dans une super lancée.
Les deux, ouais, ça va être compliqué. Indiana,
vous êtes trop terre à terre, les mecs.
C'est vrai, tu
Wemby va faire rêver la France.
Ouais, je pense aussi.
Ah, je pense qu'il veut faire comme
ça.
Gros,
ouais. Le problème, c'est que ça joue pas en 1 contre 1 le basket.
Je sais. Voilà. C'est trop terre à terre. T'aimes pas rêver, j'ai l'impression.
Non, mais il y a d'autres joueurs derrière. Et c'est vrai que, mais bon, Wembanyama, il va avoir quand même des clients parce que le secteur intérieur de Indiana est pas mauvais. Hein.
C'est une bonne équipe. Hein.
Turner, il va l'écarter en plus. Il va l'éloigner le plus possible de la raquette. Et lui rentrer dedans aussi.
C'est une masse.
En tout cas, l'affiche est sympa. Je sais pas si vous avez aussi capté que toute la com qui a été faite autour de l'événement, enfin on en parle au JT ce midi,
Il n'y a jamais eu autant de journalistes accrédités, je crois qu'ils étaient 250. C'est comme ce que disait Vaution ce midi, là, il disait que c'était comme un All-Star Game. Quoi. Ouais, à la grande époque des All-Star Games.
Ouais. Donc t'as Wemby déjà, donc ça a fait venir du monde, et puis mine de rien, c'est deux franchises qui même en France parlent, tu vois. Ouais. Notamment les Spurs, c'est une franchise que les Français connaissent grâce à Tipeee de le passé, et puis Wemby maintenant. Donc ça joue aussi en effet dans l'engouement du truc. Ce serait des franchises que seuls les puristes connaîtraient.
Ouais, c'est vrai que là, c'est vrai que c'est une équipe qui mise un peu au devant de la scène, là, San Antonio, c'est tant mieux. Peut-être que les auditeurs ne savent pas, mais il y aura possibilité de regarder ces deux matchs normalement en clair.
logiquement,
ils vont être, ouais, ouais, être diffusés sur Canal+. C'est pas Bein Sport qui a habituellement les droits de la NBA. Canal+
sur
a les droits historiques.
Sur les deux.
Ouais. Oui, ils seront. Alors, Bein Sport aura aussi effectivement le privilège d'y être, mais c'est Canal+ qui va pouvoir diffuser à un degré plus large, hein, du coup, à un autre niveau. Et on va retrouver une voix mythique de notre jeunesse, les gars, puisque George Eddy.
Qu'est-ce que c'est faux.
Ouais, voilà.
C'est un plaisir. Il a mis le marteau sur la tête.
Alors c'est cool ça, hein, franchement
c'est super sympa de la part c'est cool qu'il fasse ça.
Monsieur du basket.
Et puis Georges Eddy c'est cool aussi, ouais, c'est clair.
Ouais bah oui, de toute façon c'est un super c'est commentateur.
La voix du basket, ouais.
La voix elle est. Il a perdu son short.
c'est ça. Alors bon, malheureusement il y a des petits bémols quand même cette affiche, le prix des places quand même, qui sont déjà de base inaccessibles. C'est très difficile d'en avoir.
Je n'ai même pas vu le prix des places.
Je crois que c'est 900 balles.
Non mais à l'initiative. La place la moins chère que j'avais vue, c'était 350 euros.
Mais après, alors, c'est le prix.
T'étais tout en haut. Hein, vraiment, tu vois des plots en bas.
Ça reste un business la NBA. Hein, il n'y a pas de petits profits.
Et c'est plein les deux matchs.
Deux matchs sont pleins. Je pense qu'ils en avaient fait 5. Ils ont été pleins aussi.
Plein quand même. Ouais.
Et en fait, du coup, ça me permet de rebondir un petit peu sur ça. La perspective d'une ouverture de la NBA dont on entend parler depuis longtemps en Europe. Alors, c'est un vieux serpent de mer. Hein. C'est-à-dire
ça se réchauffe quand même.
Mais on parle d'une ligue fermée de plus en plus.
Et la ligue un peu version Euroleague en fait.
Voilà, exactement.
Il voudrait que les gros clubs d'Euroleague fassent une espèce de NBA.
Une ligue fermée en fait.
Européenne, ouais. C'est ça.
Alors, on pense au Paris Basket notamment, qui a été contacté, parce que le Paris Basket, on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, mais ils ont un modèle économique et marketing.
Et un proprio américain.
Qui pourrait correspondre.
Un proprio américain qui.
Oui.
Un coach américain aussi.
Ouais. En tout cas, on a hâte de voir ces deux matchs, même si, par le passé, il faut quand même avouer que les matchs étaient plutôt merdiques.
Il y a quand même de l'enjeu, là, en plus. Enfin, c'est pas deux équipes qui n'ont rien à jouer.
Comme dit, voilà, c'est ça.
Ouais, j'espère. En tout cas, on l'espère vraiment. La deuxième info qui nous permet de faire la transition sur notre sujet, notre fil conducteur de l'émission, c'est les heureux hasards du calendrier, en fait, la nuit dernière. La NBA nous offrait le derby new-yorkais, Brooklyn Nets, New York Knicks. Et même si les Nets ont vendu chèrement leur peau contre l'ennemi du coin, bon, il existe quand même un gap plus large que l'Hudson entre les deux franchises. Hein. Et les Knicks se sont imposés de 5 points avec une fin de match très bien ficelée par Jalen Brunson, dont on va parler. 3 paniers cruciaux et 2 ultimes lancers francs pour clore l'affaire dans le Money Time. 9e victoire de suite dans le derby pour New York. Merci aux Nets. En tout cas, de ne pas avoir sabordé cette émission.
Après les Nets, je pense qu'ils font partie du lot où ça va tanker un peu récupérer Flag l'année prochaine.
Ça va déjà péter la trade deadline.
Tu crois qu'il va se vivre
Cam Thomas, apparemment, il est.
Cam Johnson.
Cam Johnson, il est annoncé un peu partout. Là.
Ouais, voilà, mais c'est le problème des joueurs qui sont annoncés un peu partout. Quoi.
En tout cas, bon, il n'y a pas eu vraiment de. Il y a eu un match de basket, ça c'est bien, c'est cool. Il y avait du beau monde aussi, hein, puisque Ben Stiller et Spike Lee, dont on va parler après.
Toujours Spike Lee.
Voilà, avait fait le déplacement. Ouais. Habituellement, il ne se déplace pas. Hein. Ah, bon, là, il y a 7 km, je pense,
c'est
à peu près. Donc,
à côté, oui.
Oui, voilà, ils ont fait les déplacements.
Mais Brooklyn, pour revenir sur le match, c'est très bien défendu. Et je pense que New York les a pris un peu de haut. Bon, par contre, Thibodeau, il ne changera pas. Hein. Enfin, le 5 de départ, il joue entre 35 et 40 minutes contre les Nets. Tu te dis, c'est vraiment le match où là, tu peux un peu ouvrir ton banc, donner du temps de jeu à quelques gars qui peuvent assurer les rotations. Mais là, même pas. Quoi. Enfin, c'est un truc de dingue, ce mec. Hein.
Voilà, tu vois, Karl Anthony Towns, 39 minutes. Brunson, 39
minutes. Se débarrasser des Nets.
Hart, 39 minutes.
Ouais. Ah, il a pas joué 45. Oh, ça va, il a
Anunobi, 37.
Ouais,
bon. Bridges, 34.
Mais je te dis, le 5 de départ a joué au moins 35 minutes. C'est un...
Alors, je fais un coucou à Knicks Nation, avec qui j'ai échangé un petit peu sur les réseaux sociaux aussi, qui désespère quand même. Ils ont beau aimer les Knicks, hein, les supporters.
Ouais, mais...
Il y a quand même une grosse partie des supporters qui en ont un peu marre de ce coaching-là. Qui porte déjà les stigmates d'une victoire à la Pyrrhus derrière en play-off, parce que quand tu passes un tour comme l'année dernière et que tu perds deux joueurs à chaque tour, ça devient compliqué. Bon, ouais,
Après, faut voir ce qu'ils visent, parce que pour moi, ils visent être dans le 3e ou 4e, parce que je pense que Boston et Cleveland, ce sera inaccessible. Bon, ouais. Mais après, il faut qu'ils fassent gaffe quand même de ne pas en perdre trop, parce qu'il y a ce fameux les Pacers s'ils vont revenir, il y a les Bucks qui sont encore là, et ils pourraient vite perdre l'avantage du terrain, et je pense que c'est vraiment leur objectif de la saison.
Verrouiller l'avantage.
Exactement, de prendre l'avantage du terrain sur le premier tour des playoffs.
Ok,
Et pour finir, Tons, il fait quand même un bon match. Bon. Par contre, ouais. Il commence à retomber dans ses travers à Minnesota où il commence à plus râler qu'à jouer. Et moi, je l'ai préféré beaucoup plus en début de saison où il était vraiment injouable. Ah, enfin, il prenait des rebonds à la volée.
Il continue quand même. Hein, les
oui,
stats
oui, non, mais
là.
Il fait des super stats. Mais attention, attention de ne pas se perdre, Monsieur Tons.
Ok.
Message bon, passé.
Voilà.
Je sais pas s'il est reçu, mais
il nous écoute. Passé. Avec une spéciale.
Autre chose après. Mais moi, il est passé.
Ok, les mecs, on enchaîne avec notre rubrique suivante.
Deux Siciliennes.
Quand tu viens chez Sal, c'est sans musique. Sans rap, sans aucune musique, sans musique, sans musique. Capiche? Tu comprends?
Tu me rajoutes beaucoup de mozzarella et un œuf, d'accord?
Avec un ovo, ça fait $2.
Il y a des noms indissociables d'une franchise. Alors, je ne sais pas si vous avez la ref. Vous avez reconnu, hein? Voilà, la musique, forcément, Buffa.
Hein?
Ah oui, t'as pas entendu.
On est là, on n'est pas là.
Ouais.
Oui, bah, Public Enemy pour le coup, mais après, le film, je l'ai pas. Attends, ce serait pas. On en parlait il y a la précédente émission de ce film-là. Mince.
Et Do the Right Thing.
Do the Right Thing, voilà. C'est
Spike Lee aussi. Hein.
Ouais. Alors, pourquoi je vous parle
de la mozzarella, là, ça m'a fait
Oui. Ouais. Il y a des noms, je disais, qui sont indissociables d'une franchise, d'un logo, voire d'une époque. Hein. Les Lakers sont Jack Nicholson, les Raptors ont Drake, désolé, un peu fin. Chicago a Obama, quand même. Ouais. Et New York a Spike Lee.
Spike Lee,
on pourrait rajouter Ben Stiller, dont on a parlé. Mais il faut savoir qu'avant d'être un supporter qui a quand même été intronisé à ce titre, hein, au Wall of Fame en octobre dernier, ils ont quelques-uns à avoir obtenu une place au Wall of Fame, dont Nicholson. Il ne faut pas oublier que Spike Lee, c'est d'abord un grand réalisateur, hein, alors de clips musicaux, hein, Michael Jackson, Public Enemy notamment, au film oscarisé, en passant par le documentaire. Spike Lee, c'est cette icône du cinéma afro-américain dont il s'est rapidement affirmé comme porte-parole identitaire. Et il crée des polémiques, hein, n'hésitant pas à explorer les fanges dures de la société de l'Amérique, hein, les faces sombres, le Ku Klux Klan notamment, et les figures un peu controversées comme Malcolm X. Alors son cinéma est social, provocateur, on a déjà évoqué le film Do the Right Thing quand on a fait une spéciale Jordan. Et aujourd'hui, on vous propose d'évoquer un film qui a un lien direct avec sa passion pour le basket, au travers de He Got Game, un film sorti en 1998. Alors, je vais faire le synopsis rapidement, je vous laisserai rebondir après sur le film.
On va voir si tu l'as vu, vas-y.
Si tu l'as revu.
J'ai travaillé. Bruno a ressorti son vieux DVD parce que il a pas Disney Plus, hein, donc c'est sur Disney Plus.
Pas d'abonnement. Voilà,
donc, DVD aussi, moi.
Il a chopé, moi j'avais pas.
Un euro la recyclerie, monsieur.
Je l'ai découvert, voilà. Et on va du coup y voter. Alors le synopsis de cette histoire, c'est Jack Shuttlesworth qui purge sa peine en prison pour le meurtre de sa femme. On sait un peu plus après. Et son fils, qui s'appelle Jésus, est une star des lycées, sur le point de s'engager sur la voie pro, soit en passant par la fac ou en sautant directement le pas vers la NBA. En tout cas, on ne sait pas trop. Il doit prendre sa décision, mais pendant sa peine, un deal est proposé à Jack. S'il parvient à faire signer son fils dans l'université préférée du gouverneur, eh bien, il obtiendra une remise de peine. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, parce que le jeune prodige ne veut plus entendre parler de son père et que les vautours planent autour de la star en devenir. Alors, le casting...
Voilà. Je vais te poser la question.
On va commencer par l'acteur qui n'en est pas un.
Qui joue bien quand même.
Qui joue super bien.
Pour être honnête, moi je trouve que c'est celui qui joue le mieux. C'est Ray Allen.
Oh, attention, tu.
Denzel.
Attention, monsieur.
Ok, donc Ray Allen qui joue le rôle de Jésus Shuttlesworth. Denzel Washington qui joue son père, qui joue un grand acteur, puis acteur phare de Spike Lee. Hein. Mais on a aussi Mila Jovovich ou John Turturro qui est un super acteur aussi.
Effectivement. Oui.
Voilà, et une ribambelle de guests. Alors. Prestigieux en lien.
Rosario Dawson, j'avais complètement zappé qu'elle jouait dans le film.
Torturo, c'est rigolo parce que vous connaissez l'autre film où il s'appelle Jésus.
Mais voilà, Jésus rencontre Jésus.
C'est bien. C'est vrai. La boucle est bouclée. C'est magnifique.
Ils sont forts ces Américains.
Alors, on a dans le film quand même des apparitions de George Karl, Rick Pitino, Scottie Pippen, Charles Barkley, Shaq, Jordan himself. Alors, faut savoir que Jordan. c'est un pote de Spike Lee, hein, ils sont fa- il est fan, Spike Lee est fan de Jordan et ami. On a aussi Reggie Miller. Ouais,
c'est oui, effectivement.
Ce qui est pas moins évident, on vous expliquera pourquoi après. Ou encore Rick Fox, qui joue un rôle secondaire, mais qui joue pas mal, hein, qui était un bon joueur, Rick Fox, qui a un petit rôle sympa, et j'en passe. Et on évoque, bah, bon, dans tout le film, d'autres noms aussi, hein, comme Stephen Marbury, qui est une légende des streets, de la street new-yorkaise, et notamment à Coney Island. La réalisation... Avant d'en parler avec vous, c'est haut en couleur, hein, c'est dynamique, il y a une belle pellicule, mais moi je trouve personnellement que c'est joué de façon juste honnête. Surtout par Ray Allen, parce que moi je trouve que c'est régulièrement surjoué, et comme c'est souvent le cas dans le film de Spike Lee,
bah, en fait, c'est, oui, c'est exagéré. C'est Spike Lee.
Donc c'est ça, ça marque, ça hein, touche, mais c'est pas le seul qui faisait surjouer ses acteurs. Hein, si tu regardes des films de Kubrick, c'est un peu surjoué aussi.
Tarantino aussi beaucoup.
Aussi beaucoup. Alors c'est... D'ailleurs, on est un peu en bif avec, avec Spike Lee, Tarantino et lui.
Qui a tort, qui a raison, mais le bif peut se comprendre.
Oui, voilà. Bon, tu nous en parleras après si tu veux. Et ce qui est marrant, c'est qu'on oscille entre une réalisation qui est plutôt classique, je sais pas pour vous, mais la musique est un peu fleur bleue régulièrement.
Ouais, c'est ça, j'ai oublié ces petits mots. Ouais,
effectivement.
Derrière les dialogues.
Là. Et alors que c'est super non conformiste à côté, on a un langage bien fleuri, des scènes de cul régulièrement quand même. Hein,
ouais, ça va.
Oui. Mais enfin bon, c'est un peu décalé. cette opposition
de musique de fond bizarre des fois.
Ouais. Voilà. Et c'est ce qui fait que le film est difficile, on va dire, à peut-être accrocher sur le moment, parce qu'on s'attend à voir un film de basket. Et en fait, c'est un film qui parle de ce qu'est le basket, mais pas que.
Il y a beaucoup de choses, hein, dans
beaucoup de choses. Il y a beaucoup de symboles en fait à devoir deviner et comprendre.
Surtout la relation des lycéens et tout ça avec la gestion. Maintenant, ça, je crois que je sais pas si ça s'est épuré cette histoire-là, mais toute la relation de l'argent qui tourne autour.
On voit bien les sollicitations, comment ils se mettent dans la poche.
La famille qui te.
Bon, bah, la famille, c'est pas mal. Hein, ça, parce que on en parlera après sur la symbolique, mais ils essaient tous en fait, de grappiller, de venir grappiller autour du prodige Jésus qui. Alors, le prénom n'est pas choisi par hasard aussi, on en parlera dans la symbolique, mais Buffa, toi qui es un expert en musique, tu peux nous parler de la BO?
Alors justement la BO, c'est pour revenir à ce que disait notre cher Bruno, c'est que la BO et c'est un album qui a été fait aussi par Public Enemy. En fait, Public Enemy sort son quatrième album, c'est une bonne mémoire, en 97-18 pareil, voilà. Et le titre s'appelle He Got Game. Donc en fait, l'album a été fait en relation avec le film.
Titre éponyme, ouais.
Voilà. Il y a une sorte de ping-pong entre l'album et le film. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que dans le film, on n'a que deux morceaux issus de l'album. Donc en l'occurrence, He Got Game, hein, voilà, hein, pour ne pas le citer. On l'écoute après ou pas?
Voilà,
donc j'en dis pas plus.
Ah bah allez, c'est parti.
Voilà. The father, the son is the center of the earth, in the middle of the universe. Then why is this verse coming six times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean, all this I'm seeing? Human beings screaming vocal javelins, sign of a local unraveling. Uh-huh. My wandering got my wondering, where Christ is in all this crisis. Hating Satan never knew what nice is. Check the papers, well I bet on ISIS. More than your eye can see and ears can hear. Year by year all the sense disappears. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, two triple O's. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but the game if it ain't saying nothing. Damn, was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Race scared of his shadow, does it matter? Thought of reparations, got a plan with the population. Nothing to lose, everything's approved. People use, even murder's excused. White men in suits don't have to jump. Still 1,001 ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules. Folks don't even own themselves, paying mental rent, the corporate presidents. One out of 1 million residents, be a dissident who ain't kissing it. The politics of chains and whips, got the sick missing chips and all the championships. What's love got to do with what you got? Don't let a win get to your head or a loss to your heart. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, two triple O is near. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where
where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but the game if it ain't saying nothing.
Something happening, yeah. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there.
Yeah, that's right.
Telling me I got to beware. Each time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down.
More than that, millennium just be killing them. And they're scary, like lies buried in a library. When did the state pen correct anything? When powers are still...
Alors, au départ, on rebondit sur le film, hein, je garde pas le morceau jusqu'à la fin, je suis désolé, mais il faut savoir qu'il y a des petites anecdotes sympas sur ce film et sur cette BO. Hein. Au départ, Spike Lee, l'acteur qu'il a choisi, c'était pas Ray Allen, c'est Kobe. Et je vous disais tout à l'heure en antenne que Kobe avait décliné l'offre de Spike Lee parce que il avait pris une branlée par le Utah Jazz en playoff en 97, si je dis pas de bêtises.
Malone.
Voilà, aux heures de gloire de Malone et Stockton. Et du coup, il avait dit non, moi je passe pas mon été à tourner, mais je vais aller m'entraîner plutôt.
Je vais bosser.
Voilà, il avait bien fait d'ailleurs, hein, ça avait servi. Ensuite, Spike Lee s'est rabattu sur McGrady, mais il le trouvait trop discret. Il trouvait qu'Iverson ne faisait pas l'affaire. Et ça a coincé avec le tournage de Garnett et Stephen Marbury. Donc, du coup, ben, il a découvert Ray Allen et puis s'est dit pourquoi pas. Et il a bien fait.
Ce qui peut le carrière quand même, Ray Allen.
Ah, c'est quand même pas mal. Ouais.
Quand même, j'ai envie de dire.
Et justement, sur Ray Allen, il y a une petite anecdote sympa aussi, c'est qu'une suite avait été envisagée pour le film, mais elle n'a jamais vu le jour. Et lors d'un match du Miami Heat, à l'époque où Ray Allen a rejoint le Heat, surtout en fin de carrière, et ben, il a arboré Ray Allen un jersey floqué. G. Shuttleworth, donc Jésus, voilà, pour rendre hommage.
Et c'est resté son surnom.
Et moi je comprenais pas pourquoi on l'appelait Jésus. Moi je croyais que c'est parce qu'il a, c'était un super shooter.
Ouais. Non.
Donc j'ai compris en regardant le film.
C'était un super shooter.
Ouais. Je juste dire aussi la dernière scène, la scène finale quand ils s'affrontent. Je sais pas si vous avez capté les gars, si vous l'avez revu. Mais le dernier point. Parce qu'ils doivent, s'il gagne contre son père, il obtient sa lettre, il peut sortir de prison, tout ça. Et en fait, il y a marché. Ray Allen, il fait marché.
T'as le droit, t'as le droit.
Ouais, sur un playground en plus.
Est-ce qu'il fait plus que 4 pas? Non. Il a pas marché.
Allez voir le film. L'américaine, vous jugerez vous-même.
Voilà.
Ok. Il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment sur la symbolique du film, mais on va pas avoir le temps malheureusement. Et n'oubliez pas quand vous allumez votre radio que vous êtes sur Money Time en fait. Hein, vous n'êtes pas sur les cahiers du cinéma. Donc sur 94.9 avec nous sur graphite.net, vous pouvez écouter l'émission, la réécouter en podcast aussi. C'est une émission qui fait voyager à peu de frais et vu le coût de la vie, oh my God, c'est pas du luxe.
C'est beau.
Justement, allez, ça va être à Mehdi. Je te mets ta petite intro, Mehdi. Allez, c'est parti.
Doucement.
Écoute, je ne réagirai pas à cette phrase.
Un t-shirt qui dit « Je n'ai rien à faire ici ».
Vous avez des billets ?
Les billets annuels de mes parents étaient dans le partage du divorce et ma mère me les a donnés.
Ouais.
Puis apparemment, ce sont vraiment de très bonnes places.
Ah ouais. Oh, bon sang ! Ils sont pratiquement au niveau du terrain.
Et ces billets vous intéressent? Vous les voudriez?
Oh oui, bien sûr!
Oui, on les veut bien! Oh, mais alors, ils sont à vous!
Génial!
Si vous nous rendez notre appartement!
Mais on pourrait aller voir un match ce soir!
Écoute-moi, la seule façon pour moi de considérer leur offre, ce serait qu'elle propose plus que de simples places à l'année!
Mais c'est l'Enix!
Oh, c'est l'Enix! Oh, oh. Je ne pensais pas ce que je disais. Je disais seulement que l'appartement valait nettement plus! Mais l'Enix domine tout. Je te le fais pas dire.
Bon, messieurs, vous avez reconnu
Friends.
Okay, ouais. Friends. Et la bande sonore.
Louride,
bien sûr. Oui,
bien sûr, évidemment.
Bon, alors justement, attablé au comptoir d'un barlouche de Little Italy, on pourrait l'écouter des heures en sirotant un whisky sans alcool. Il est notre spécialiste des hauts faits, des exploits mythiques et des grands noms de la balle orange. Aujourd'hui, Mehdi, tu nous emmènes à Pennsylvania Plaza dans ce qu'on appelle la Mecque du basket, le Madison Square Garden. Théâtre de tous les exploits, et il nous parle d'un locataire mythique sur lequel on reviendra en fin d'émission.
Yes, alors, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un grand nom du basket, un grand nom parce que c'était un pivot. Et quand on dit son nom, on voit les Knicks, de toute façon, c'est monsieur Patrick Ewing.
Eh oui.
Eh oui. Et surnommé Empire Knicks Building, ou alors le plus connu, ouais, The Beast.
From the East.
Yeah.
Beast
from the East. Ah, c'était une bête, 2m14, 135 kilos.
Comme moi.
Poids de forme, pareil. Un frigo. Ouais. Qu'on n'arrive pas à déplacer par contre. Hein.
Une belle armoire.
Donc Patrick, c'est un joueur qui incarne une seule franchise. C'est vrai que dès qu'on dit son nom, on voit les Knicks. Le célèbre numéro 33 des Knicks est un joueur incroyable, mais malheureusement pour lui, il a été poursuivi toute sa carrière par deux joueurs qui lui ont pourri la vie. Et ces deux joueurs, c'est Michael Jordan et Hakeem Olajuwon. Le pauvre, il est très mal entouré.
Ouais,
très mal entouré.
Il n'a pas été, c'est clair.
Mais ils lui ont pourri la vie, il faut dire ce qui est. Alors, Ewing est né à Kingston, en Jamaïque. Il est le quatrième enfant d'une famille de six. Et il vécut en Jamaïque jusqu'à l'âge de 13 ans avant de rejoindre sa mère qui avait immigré à Boston et qui travaillait dans les hôpitaux. Alors que lui ne rêvait pas du tout d'Amérique. Il rêvait que de la Jamaïque, et de tous ses paysages. Donc en fait, il faut savoir que quand il arrive aux États-Unis, il n'a jamais touché un ballon de sa vie. Okay, il ne connaissait pas le basket, parce qu'en fait, quand il était jeune, il jouait au cricket. Et après, il a été gardien de foot. Ouais, donc la balle orange,
ouais, bah, il connaissait anglais, pas du principe, tout. Ça se tient, ouais, ça se tient.
Je crois que la Juan, c'est pareil, il a commencé tard.
Ouais, tard aussi.
Ouais. Ouais. Et alors lui, en plus, enfin, il connaissait pas. Puis bon, bah, comme tous les gamins, il a été sur un playground, il a pris une balle et en fait, il savait pas trop jouer. Et il rêvait pas d'être basketteur, mais il voulait devenir artiste. Et il obtiendra d'ailleurs un diplôme universitaire en tant qu'artiste. Mais à 13 ans, donc, il se rend sur un playground, joue avec ses copains. Et il est déjà un peu balèze parce que il arrive à dunker sur les paniers des playgrounds. Et ce jour-là, il y a un mec qui est passé, il s'appelle Mike Jarvis, donc je l'ai découvert, et qui était entraîneur au collège de Cambridge dans le Massachusetts. Et du coup, il l'a fait venir dans son...
Ouais.
Ah, j'ai eu du mal à le dire, ouais. Hein. Ah, je l'ai raté.
Je pensais une vidéo comme ça que des Japonais...
et du coup, donc, il le fait intégrer le collège. Donc en fait, il décrira Patrick comme étant un très gros bosseur. Donc en fait, il ne savait pas jouer au basket. Et par contre, quand il comprenait pas quelque chose ou quand il ne savait pas un point très précis, il posait 100 fois la même question jusqu'à ce qu'il maîtrise complètement le truc. Donc en fait, en gros, il n'était pas talentueux du tout, mais alors c'était un énorme bosseur. Moi, c'est vrai, hein, personnellement, c'est pas un joueur qui m'a fait rêver, hein, c'est ce que j'ai dit. Mais par contre, quand on regarde toute la quantité de travail qu'il a fait, ouais. Il avait une éthique de boulot, ouais. Et il avait une hygiène de vie qui était
et il répondait présent sur le terrain.
Quoi, ouais.
Oui.
Statistiquement, son hygiène de vie, on y reviendra, parce que jusqu'à un certain moment de sa vie. Donc par contre, comme il vient de Jamaïque, en fait, il parle pas très bien l'américain. Et en fait, il se fait moquer beaucoup au collège. Et après, en université, comme beaucoup de gens vont se moquer de lui, il va y avoir des pancartes dans les tribunes et autres, et les gens vont se moquer de lui vraiment quand il joue.
Tain, spontanément, et c'est pas le mec à qui je me serais foutu de sa gueule.
Ouais,
tu vois,
ouais,
non plus.
Et, enfin,
bon. Et, pas du tout.
Et donc, dans tout son basket fou, universitaire, ouais. Il y avait des pancartes qui se moquaient de lui, qui se moquaient de son accent, parce qu'il avait beaucoup de mal à communiquer. Et en fait, les journalistes, c'était pas du tout ses copains. Plus il les évitait, mieux c'était. Parce que c'était déjà une star à l'université.
Georgetown.
Ouais, bah c'est ça. Il arrive, donc après son collège, il arrive à la fac de Georgetown, donc à une fabrique à pivots excellent et qui ont sorti quand même Allen Iverson.
Aussi.
Vous pouvez réécouter l'émission de la dernière fois. Ouais. Où il va rester 4 ans. Donc en université, il va faire ses 4 ans. Pendant ces 4 ans, il va faire 2 finales NCAA. Donc la première, bah, il la perd contre Michael Jordan.
Tiens, comme par hasard, les problèmes commencent.
Le mec a confisqué toutes les finales.
C'est clair.
La finale, c'est bien. C'est
et bon, la deuxième, par contre, il la gagne. Il la gagne contre Olajuwon.
Ah ouais.
Ah, c'est la seule fois qu'il le battra. Non, mais je spoil un peu, parce que comme ça, vous saurez. Donc, mais par contre, son bilan en université, écoutez bien, il a 121 victoires pour seulement 23 défaites. C'était un monstre universitaire. Donc, il était énormément de suivi, bien sûr, et la NBA s'enthousiasme sur cette draft 85.
Juste après celle de Jordan.
Exactement. Ouais. et où les Knicks remportent la loterie. Ouais. C'est la première fois qu'il y a la loterie. Parce qu'avant, la moins bonne équipe choisissait en premier. Il n'y avait pas de loterie. Et pour éviter ça, ils ont créé ça. Donc c'est la première. Donc Ewing est retenu en numéro 1, bien sûr. Et dans la même soirée, il y a quand même, écoutez bien les pics, quoi. Chris Mullin qui rejoint les Warriors, Charles Oakley qui rejoint les Bulls, Karl Malone le Jazz et Joe Dumars les Pistons.
Et du coup, ah ouais.
Ça va ou pas?
Ah, c'est petit, ouais.
C'est pas la cuvée de cette année. Hein.
On est d'accord.
Ah, ouais. Il y avait du costaud.
Donc du haut de ses 2m14 et de ses 135 kilos, il arrive à Big Apple. Il est rookie de l'année en 86, malgré qu'il ait manqué 31 matchs sur la saison. Ouais, il a été blessé, ouais. il a manqué 31 matchs.
Mais bon, c'était tellement évident qu'on lui a donné. Quoi. Mmh.
Le seul objectif de sa vie, c'est d'avoir une bague de champion. Il le répétera tout au long de sa carrière, ce qui ne décrochera pas, mais ça a été son rêve le plus fou. C'est jamais arrivé, même s'il a joué quand même deux finales. Je vous ai dit en introduction que sa carrière sportive est liée à deux joueurs qui lui ont pourri la vie. En fait, il y en aura quatre parce que dans la finale en 99, il tombera sur une paire des Spurs qui lui ont fait mal. Donc dans les années 90, il se fait sortir deux fois en play-off par les Bulls de Jordan. Puis quand sa sainteté prend sa fausse retraite, il est sûr que l'heure de New York est arrivée. Ouais.
Comme beaucoup d'ailleurs.
Ouais. Et il arrive quand même en finale en 94 sous Pat Riley, qui arrive pour prendre les New York Knicks après ses quatre bagues à Los Angeles. Mais malheureusement pour lui, il se confronte à Olajuwon, qui est encore mieux entouré collectivement et ne lui laissera aucune chance. Il n'y a pas grande différence de stats entre Olajuwon et Ewing sur la finale.
Ouais, je suis assez d'accord. Il était bien. Moi, je trouve qu'il n'est pas si mal entouré.
Ah,
la finale, elle est perdue. C'est la seule finale, je crois, qu'il se perd 4-3. Hein. Il gagne 4-3. C'est plus serré.
Ouais, mais là où je te dis qu'il est mal entouré, parce que je vais te... Voilà. Il perd au match 7 et son lieutenant, donc c'est Stark...
Ouais, John Stark.
Et il fait quand même 2 sur 18 à ce match et 0 sur 11 à 3 points.
C'est la catastrophe ce jour-là.
Ah oui, oui, Stark, c'est... En fait, le match 7,
il n'y a pas
de match. Et il faut savoir que le match 5, ça a été une attente incroyable entre ces deux équipes. Et en fait, l'Amérique ne va pratiquement pas le voir. Est-ce que vous savez pourquoi ce match, il n'est pratiquement pas vu?
Non.
Parce que tous les Américains sont sur une autre chaîne. Parce que c'est le soir... où O.J. Simpson est pourchassé par la police.
D'accord.
En fait, tous les Américains ne regardent pas le match et regardent ça. Donc en fait, même quand il est arrivé au sommet de sa gloire, où il doit être devant les projecteurs...
C'est l'histoire d'un rendez-vous manqué.
Exactement.
Se demander, ouais.
Puis donc, en finale, bon, en 95, c'est une année gâchée pour lui, parce qu'il aurait pu retourner en finale, mais malheureusement, les blessures lui font très très mal cette année. Ensuite, comme tout le monde, sa seigneurie revient aux affaires pour de nouveau lui botter le cul en play-off, malgré de très bonnes saisons. Hein.
Ah ouais.
Et arrivé en 98, en fait, il va se fâcher avec les Knicks. Il va se fâcher, il va aller voir le propriétaire, il va vouloir se barrer parce qu'il demande à être beaucoup mieux entouré. Et sur deux saisons, il y a quand même Allen Houston, Latrell Sprewell et Marcus Camby qui arrivent.
Ouais, c'est pas mal.
Donc,
c'est pas dégueu.
Là, ouais. Au niveau de l'entourage, c'est quand même bien meilleur. La fameuse année 99 où je parlais, où ils arrivent en finale, c'est l'année de la grève des joueurs. Il n'y a qu'une saison à 50 matchs. Donc ils sont menés cette année-là par Jeff Van Gundy.
Eh oui.
Et les Knicks font l'exploit d'arriver en finale alors qu'ils terminent combien de la conférence?
Ils sont 8e.
8e, c'est la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire.
Et ils tapent le hit.
Qui est-ce qui tape
lors d'une baston légendaire. Il faudrait qu'on en reparle de cet événement-là. Ouais.
Donc c'est considéré vraiment comme un exploit. Mais le sort s'acharne parce qu'en fait, lors de la finale, il ne peut pas jouer les deux premiers matchs. Et il tombe sur les Spurs avec une raquette démentielle avec Robinson et Duncan. Ouais, et la raquette étant désertée, Camby était vraiment trop seul. Les Spurs l'emportent 4-1, ouais. Où Duncan fait déjà des stats phénoménales alors qu'il est déjà dans sa saison rookie. Donc après 15 saisons, les Knicks ne le gardent pas et jouera deux saisons histoire de finir sa carrière. Il va d'abord aux Sonics puis après à Orlando. Mais là, son physique commence vraiment à se dégrader. Et Shaq aura cette phrase... pour lui, alors qu'il était encore aux Knicks, on ne transfère pas une légende. Mais c'est vrai que les Knicks n'ont pas eu de remords à le lâcher, en fait.
Ouais, pourtant, c'était...
Donc il est toujours en conflit régulier, soit avec l'administration, soit avec son public. Mais malgré tout, New York retire son maillot en 2003, ce qui est normal. Et il devient Hall of Famer en 2008, le même jour que, je vous laisse deviner qui. Olajuwon, de toute façon, ils sont sont inséparables. Ouais. Il continue sa vie en devenant head coach pour le pivot de Houston. Donc, il aide Yao Ming. Et après Orlando, il aide Dwight Howard. Puis devient coach de sa fac. Il n'a jamais eu de contrat dans la ligue. Donc il restera certainement parmi les 10 meilleurs pivots de la ligue, hein, ça s'en fait. Et les deux Celtics qu'il remportera, ce sera en 84 et en 92 avec Michael Jordan, où il devient champion olympique. En fait, pour caricaturer sa vie et finir, il est pas né dans les bonnes années, comme beaucoup.
Ok, super. Merci Mehdi pour cette explication talentueuse. On va enchaîner. Tout de suite avec une rubrique qui a été faite par Mathéo qui nous a enregistré une chronique pour parler d'un joueur, cette fois-ci du présent. On va parler, en tout cas c'est Mathéo qui va vous parler, de Jalen Brunson.
Salut tout le monde, nouvelle chronique qui s'appelle Player Story. Donc comme le nom l'indique, si vous êtes fort en anglais, ça va parler des histoires des joueurs. Et aujourd'hui on va parler d'un meneur, 1m88 pour 86 kg. Il est bien tanké, il porte le numéro 11 et il est bien sûr en lien avec le thème de la soirée, c'est-à-dire les Knicks. Bon, vous l'avez ? Eh oui, c'est bien Jalen Brunson. Alors Jalen Brunson, de son vrai nom Jalen Marquis Brunson, naît le 31 août 1996 dans le New Jersey. Alors il grandit sous l'influence de son père, Rick Brunson, je sais pas si vous connaissez, qui a joué en NBA de 1997 à 2006. Seulement, évidemment, le daron, il a pas vraiment les mêmes stats que le fiston, ce qui dépasse pas la barre des 5 points lors de sa carrière. Il reste malgré tout son exemple et Jalen va essayer de suivre cette trace en commençant le basket dès son enfance. Alors très tôt il fait parler de lui avec ses perfs en attaque et ses qualités de meneur. Alors il est nommé deux fois joueur de l'année au lycée Adlai Stevenson dans l'Illinois en 2014 et en 2015. Et petite anecdote, il marque 48 points contre un certain Jason Tatum en début de saison. Après par la suite il se dirige dans l'université Villanova de 2015 à 2018. Là, il va remporter deux titres NCAA en 2016 et en 2018. Et il va rencontrer des futurs très bons amis et des très bons coéquipiers comme Mikal Bridges, Dante DiVincenzo, qui est maintenant aux Timberwolves, ou encore Josh Hart. Et en fait, ce qui est fou, c'est ce qu'ils ont réussi à souder entre eux après, derrière en NBA. Et en 2018, il est nommé joueur national de l'année et il va à présent tenter sa chance dans la Grande Ligue. Le problème, c'est que son profil de joueur, il n'intéresse pas grand monde. Car c'est vrai qu'il n'est pas le plus athlétique, ni le plus grand. Il est plus du genre « rentre dedans » si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment un vrai taureau le mec. Il est finalement sélectionné à la 33e position par les Dallas Mavericks en 2018. Et faut savoir que cette QV de draft, la draft 2018, est une très bonne draft. Car il y a Luka Doncic qui est sélectionné pendant cette draft en 3e position. Mais il y a aussi Trae Young, Michael Porter Jr. Enfin, des bons joueurs. Vous pouvez aller voir, je vous invite à aller voir... Allez voir les joueurs de sa draft. Et donc sa saison de rookie est plutôt remarquable, puisque le meneur affiche 9 points de moyenne et ne fait que monter à partir de 2020, en passant de 12 à 16 points de moyenne durant la saison 2021-2022. C'est quand même une bonne évolution. Brunson, qui devient un élément clé des Mavs, exige, et c'est légitime, un contrat à la hauteur de son talent. Alors les Mavs refusent et il préfère signer aux Knicks plutôt que de le prolonger. Là, il flambe complètement. Le mec passe de 16 à 24 points de moyenne chez les Knicks. Donc sa deuxième saison, il passe carrément à 28 points de moyenne. Je crois qu'on se rend pas compte de l'énergie humaine là. Les Knicks ont bien raison de lui faire confiance, car il fait maintenant partie des meilleurs joueurs de l'NBA. Alors que ceux qui disent que Jalen Brunson ne pourra pas porter les Knicks très haut se taisent, car il n'a pas fini de briller, et je rappelle qu'il a 28 ans et qu'il est à son prime. Alors on va passer à l'analyse de son jeu. Perso, je trouve que Jalen Brunson est sous-coté. C'est un excellent meneur qui a une bonne vision du jeu, et qui rentre dans l'art de tous les grands dans la raquette et tout. C'est aussi un scoreur de fou hein, qui met beaucoup de points dans la raquette. J'ajouterais qu'il a une explosivité que peu de joueurs ont en NBA. Donc voilà, c'est la fin de Player Story sur Jalen Brunson. C'était Matt, salut.
C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Alors, à qui est-ce que tu parles ? T'en vois un autre que moi ici ? J'en vois pas d'autre que moi ici. À qui tu parles alors? Tu vas le dire oui ou non? Ah oui. Écoutez bien, bande de dépravés. Vous avez devant vous un homme qui en a marre. Voilà l'homme pour qui la coupe est pleine. L'homme qui s'est dressé contre la racaille.
Vous avez bien évidemment reconnu Bruno qui s'entraîne devant son miroir pour sa chronique du jour sous fond des... Personne n'a trouvé, c'était les Strokes.
Alors,
alors comme à son habitude, notre Bruno National s'est bien évidemment mis au service du thème de notre émission. Et c'est son œil aiguisé et sa verve intarissable qui vont maintenant vous proposer une logo story spéciale sur les Knickerbockers.
Bah, ouais. Alors logo, on va peut-être faire, ça va être un peu plus franchise parce que c'est vrai que le logo en fait, il a pas trop évolué des Knicks,
sauf le triangle voilà qu'on a rajouté qui est le signe des Illuminati.
Ouais, voilà. Bon, mais déjà Pascal, je te félicite pas parce que faire une chronique sur l'histoire des Knicks ou son logo en 5 minutes, c'est une vraie galère quoi. Parce qu'en fait, c'est quand même une des, faut faire des choix parce que c'est une franchise qui a été fondée en 1946 avec 10 autres franchises. À l'époque, c'était la BAA. Et comme qui viendra plus tard la NBA en 1949 donc. Et donc de ces franchises originelles, en fait, il n'y en a que deux qui n'ont jamais déménagé. Donc c'est les Knicks et les Celtics de Boston.
C'est ton équipe, c'est normal, c'est facile.
Donc c'est clairement une mission impossible. Mais bon, j'ai accepté la mission, on va le tenter. Puis de toute façon, tu n'iras avoir eu connaissance, tout ça, machin, patin. Alors les Knicks, bon, je le rappelle, c'est une institution de la NBA fondée en 1946 qui a quand même connu ses heures de gloire. C'était plus dans les années 70. Oui, ils ont remporté vraiment deux titres NBA en 70-73. Après, il y a eu un gros retour sur le devant de la scène dans les années 90. Mais là, Mehdi vient de vous en parler, par exemple, notamment avec Patrick Ewing et puis une grosse rivalité avec les Bulls. Bon, on se rappelle bien, on en a déjà parlé dans des émissions précédentes, c'est le dunk de Scottie Pippen sur Patrick Ewing dans les playoffs 94, ou l'année où ils éliminent les Bulls.
Violence.
Ouais. Avec les Pacers aussi, grosse rivalité. On en a parlé aussi parce qu'il y a eu la demi-finale de conf l'année dernière, la Confest. C'était le match contre les Pacers et on avait fait un petit truc là sur le shock sign avec le Nick Skyler qui est Reggie Miller.
C'est les mains autour de la gorge voilà. C'est Reggie Miller qui l'avait créé ça pour Spike Lee.
Le shock sign. Et c'était le game 5 donc, de la finale de conférence Est en juin 94. Donc là, les Knicks étaient entraînés donc, par Pat Riley. Qui, après, ils ont créé encore une autre petite rivalité avec donc
le Miami Heat, forcément.
Mehdi a évoqué le sujet sur quand les Heat, les Knicks, donc 8e de conf, éliminent le Miami Heat qui avait fini premier de la Confest à l'époque.
Baston, il faut juste dire la baston Larry Johnson Morning, où les deux anciens coéquipiers.
Et Larry Johnson, il met un 3 plus 1.
Mais c'est pas en 99, ça c'est en 98. Hein.
Ah, tu vois, toi, je l'avais en 99.
Il se fait découper, en tout les deux veulent se battre, et il y a cette image incroyable où il y a Jeff Van Gundy, le coach de New York, qui est accroché à la jambe de Morning, qui est par terre. Le mec, lui, il fait ma taille, mon poids, et t'as la jambe de Morning, t'as Morning qui est comme si
il marche dans un chewing-gum. Il tire à boulet.
Pardon, vas-y.
Mais c'est vrai, les Knicks, c'est vrai que c'est aussi une salle, c'est des fans, c'est donc le Madison Square Garden qui est vraiment la salle d'origine. La salle existait avant la franchise en fait. C'était une salle qui était utilisée beaucoup pour le hockey et le basket universitaire. Et bon, c'est vrai que le Madison Square Garden, ils ont toujours eu des cibles privilégiées. Bon, actuellement, c'est Trae Young qui climatise régulièrement le Garden, qui fait toujours des... Et puis Joel Embiid. Mais bon, après Joel Embiid, on se demande encore si c'est encore un joueur NBA. Bon, faut fermer la parenthèse.
Temps partiel.
partiel. Hein.
Bon, pour revenir sur le nom de la franchise, donc c'est les Knicks. Mais à l'origine, donc c'est les Knicksbockers. Après, bon, c'est parce que c'est un symbole vraiment populaire de la ville de New York. C'est origine, l'origine, ça vient d'un livre aussi. Et vraiment, le premier logo, c'est la première page du bouquin de Washington Irving, le mec s'appelait. Et il prenait un pseudo et il s'appelait Knickerbocker.
Tiens, vous savez ce que c'est, les Knickerbockers, justement?
Et donc, les Knickerbockers, qu'est-ce que c'est?
C'est une espèce de pantalon large.
C'est un pantalon.
Typique.
Alors, donc, c'était à la fois Knickerbocker, toi, ça descend aussi des premiers colons hollandais. Et c'est à la fois un nom vachement utilisé dans les familles hollandaises. Et le premier équipe de sport co à New York, c'était du baseball en 1845.
et c'était déjà les Knickerbocker.
D'accord, ok, c'est vraiment une marque de fabrique.
Et donc, bah, c'est en, souvent, bah, c'est un, une forme de culotte bouffante mixte, donc qui était mise à la fois par les hommes et les femmes, et qui était maintenue au niveau des genoux. Donc
au début du XXe siècle, je crois.
Pantalon traditionnel des colons hollandais. Bah, attention, fashion alert. C'était pas, faut pas confondre avec la culotte de golf de Tintin. Vous voyez les gars.
Ah d'accord.
C'est pas la même chose.
C'est l'inverse.
Tu vois, la culotte de Tintin, c'est au-dessous du genou. Et là, c'est au-dessus du genou.
Pourquoi on l'a pas envoyé à la Fashion Week?
Non, je discute sur moi une information importante de dire ça.
Mais il y était, il y était.
Avec Wemby.
Wemby avec son knickerbocker. Là. Et donc, New York, ouais, faut pas s'oublier non plus que ça s'appelait New Amsterdam au départ. Et c'est l'occasion d'ailleurs de revoir un grand film, Gangs of New York, de Martin Scorsese.
Pour voir Leonardo DiCaprio se faire manger tout cru par Daniel Day-Lewis.
Ah ouais, le butcher.
Il se fait bouffer.
Le
butcher.
Ouais. C'est le principe. Un super film.
Bref. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas
spoilé. Restons concentrés.
Donc, bon, au début de la franchise, c'est vrai qu'il y a quand même entre 51 et 53, c'est trois finales NBA pour les Knickerbockers.
Bockers.
Avec un, on va dire, un pic. Après, c'est ensuite une descente aux enfers et un pic inversé. Donc, un pic vers le bas. Parce qu'en fait, les 60 points de Wilt Chamberlain. Avec les Warriors de Philadelphie, c'est contre qui ?
Les Knicks.
En mars 62, c'est contre les Knicks. Donc c'est un record qui est toujours en vigueur. Ouais. Ensuite, la draft de Willis Reed en 64. Et là, ça permet aux Knicks de décoller. Donc il a joué, c'est vraiment un des plus grands joueurs de l'histoire. Enfin, je l'ai un peu redécouvert aussi.
Frazier aussi.
Ouais. Lui, quand même, Willis Reed, c'est assez impressionnant parce que c'est Rookie of the Year en 65.
Remarqueur.
Hall of Fame, donc en 82, meilleur tiré au Knicks, le 19. Et donc, il prend le titre en 70-73. Il est MVP de la saison régulière en 70. Et la même année, c'est MVP des finales, MVP du All-Star Game. Et c'est le premier à réaliser cette performance. Et après, derrière, il y aura deux fois MJ et une fois Shaquille O'Neal qui feront pareil. Donc on est quand même dans du level quoi.
Sur du gratin là, hein. On est sur du gratin.
Pour rappel, l'équipe des Knicks en 70-73, c'est quand même Willis Reed, Dave DeBusschere, un certain Phil Jackson.
Oui, c'est vrai.
Earl Monroe, Jerry Lucas.
Earl Monroe, grand joueur aussi. Évoqué dans, justement, Earl Monroe, c'est le joueur préféré de Jack Shuttleworth.
Effectivement, voilà, la référence est là. Ouais, effectivement.
Bah alors, est-ce que je dois reparler de game, Phil Jackson, du palmarès de Phil Jackson ? Je ne sais pas trop s'il faut en reparler.
Non, c'est trop long.
Ça va être un peu long.
On n'a plus le temps. On a plus 10 minutes.
Il faut qu'on active.
Je vais parler un peu de Walt Frazier quand même, qui a joué aussi aux Knicks. Donc, c'est lui qui tient le record de match joué avec les Knicks, le record du temps de jeu, le point marqué, jusqu'à ce que un certain Patrick Ewing le déplace dans ses chiffres. Et Walt Frazier, c'était vachement impressionnant, il faut regarder les photos. C'est le mec qui était la classe sur et en dehors du terrain. Enfin, c'était un look, c'était les années 70, c'était une manière de se saper qui était vraiment hyper classe. Dave DeBusschere, bon, la petite anecdote un peu triste, c'est qu'il est mort vraiment à quelques mètres du Madison Square Garden en 2003. Il a fait une crise cardiaque. Et à quelques mètres du Madison Square Garden. Bon voilà, et après dans les années 80, c'est vraiment un peu les années de la loose pour les Knicks. Bah, il y avait des grands joueurs, mais bon, il y avait beaucoup de poudre aussi dans la NBA. Ouais. Ils avaient notamment drafté un joueur qui s'appelait Michael Ray Richardson. Son surnom c'était Sugar. Et lui, il est vraiment tombé dedans. Il y a aussi Bernard King, qui était vraiment le king de New York. Et un super joueur aussi, ce mec. Et il y a la draft légendaire dont Mehdi a déjà parlé, la draft légendaire de Patrick Ewing. Mais il y a aussi dans cette draft. C'est vraiment le David Stern qui est un grand fan des Knicks en fait. Il y a toujours eu des légendes autour de cette draft comme quoi il y avait eu un coup de pouce avec un tirage au sort qui est encore remis en cause aujourd'hui quoi. Parce qu'ils disent que est-ce que l'enveloppe était chauffée ou gelée, est-ce que David Stern il a vraiment choisi le bon pic qui allait bien pour que les Knicks tombent. Et justement, il dit est-ce que les Illuminati contrôleraient pas la Terre et tout ça. Enfin,
Et les Knicks aussi, oui. Mais...
Donc, en tout cas,
c'est connu.
C'est vrai que Wings c'était quand même une grosse pioche. Bon, on a évoqué la lutte contre The Beast from the East, contre The Dream. En 2000, voilà, ça se finit mal parce qu'il est transféré au Seattle Supersonic. Mais en 2003, ça revient bien. Bon, là, j'ai plus de temps. On est complètement à la bourre.
On est grave à la bourre.
Donc faut chercher sur Internet.
Ils aiment trop parler.
Non, mais il y a un truc qu'on n'a pas.
Après, dis que c'est moi qui parle trop.
Pour finir.
Enfin, on n'a pas parlé de Melo, qui est quand même un joueur de DAG.
Ouais, mais il est tombé dans la période creuse.
Tu peux faire plein de trucs, toi. Tu peux chercher sur Internet l'Insanity, tu peux chercher Carmelo Anthony, Amaris Stoudemeyer, Litran Spiewel, Alan Houston, Jeff Gordon.
Et New York.
On va demander 2 heures maintenant.
Bah ouais, c'est ça. Et New York, pour Ryan, c'est 2 heures. Il ne faut pas oublier qu'au niveau des femmes, elles sont championnes et que c'est une vraie fille de sport.
C'est vrai, exactement.
Merci,
belle toujours phrase, le basket féminin, moi j'y reviens tout le
c'est
temps.
C'est vrai. C'est important. Bon, on passe à la chronique de Rémi.
Oh, toi ! Tu m'as presque fait tomber, mais tu peux au moins dire excusez-moi.
Excuse-moi, je suis désolé.
Non seulement tu me rentres dedans, mais en plus tu écrases ma belle paire de pompes, toute neuve. T'aurais pu dire excusez-moi.
Non, t'es sérieux?
Ouais, je suis sérieux, je devrais te foutre ma main sur la gueule, minus. Ouais. T'as esquinté mes sneakers, mais qu'est-ce que tu fous dans ma rue? T'es chez moi ici, mec.
C'est à moi, cette maison.
Et en plus, t'es propriétaire, t'as aucun scrupule, visage pâle. Le grip, tes sneakers sont foutus.
Tu te rends compte maintenant, t'as plus qu'une chose à faire, c'est de jeter tes sneakers aux ordures.
C'est con, ouais. C'était super, c'est bon, je suis sûr qu'il l'a fait exprès.
Bah salutations mes amis, hein, comment vous allez?
Ça va. Très bien toi.
Tranquille, j'arrive tout juste comme d'habitude. Voilà, j'ai préparé un tout petit truc sur les chaussures, sur les sneakers de Patty Wing. Et Mehdi, il a tout dit. Hein.
Il a tout dit. Du coup, il n'y a pas de chronique, c'est ça?
Oh, les escrocs.
Non, en fait, il avait deux bêtes noires, donc Michael Jordan et Hakeem Olajuwon. Hakeem Olajuwon, il l'a battu... Non.
Une fois. En finale NCAA.
Une fois, c'est ça. Ouais. Mais il y a un truc où il a fait mieux qu'Olajuwon, c'est au niveau des sneakers, parce que je vous avais parlé des Etonic.
Ouais.
Effectivement.
Là,
ouais.
C'est que tu as fait quand même les Air Jordan, ouais. Tu as fait les
dans le micro, s'il vous plaît.
Et là, tu nous fais les pompes des Wings. Alors, voilà. Ouais. C'est la Trinité, là.
Voilà, c'est ça, exactement.
La Trinité. La boucle est bouclée.
Mais voilà, il a toujours été dans l'ombre de quand même... Sa Majesté, Michael Jordan, même au niveau des sneakers. Donc voilà. Patrick Ewing, au début, il joue avec des Nike Dunk à Georgetown. Donc ça a son importance. Bon, je vous le dirai après. Quand il rejoint la NBA, il joue au début, je crois, les premières années avec Adidas. Donc il a un contrat avec Adidas et qui se termine en 1989. Et en 89, il crée sa propre marque, Ewing Athletics. Voilà, et il ne fait pas que la créer, il est aussi dans la conception de la chaussure. Donc tout ce qui est technologie, tout ça, il est dedans. Ouais, il s'implique vraiment. Sauf que ça ne va pas prendre l'ampleur. Ça va exploser en 92, mais toujours dans l'ombre de MJ.
Voilà, des Jordan, malheureusement.
Il y a des pompes, hein. Je me souviens des pompes Ewing, elles avaient quand même, il y avait quand même réussi à trouver...
Il y avait quelque chose.
Alors après...
Vas-y.
Non, mais la chaussure, la sneaker en elle-même, c'est quand même, ça ressemble à une chaussure de cosmonaute quand même. C'est un gros truc.
C'est un gros truc. Mais justement, c'est parce que c'était bourré de protection, de technologie. Tu vois, à l'époque, c'était vraiment important de protéger la cheville. Et moi je joue que avec des montantes. Aujourd'hui, de nos jours, là.
Mais quand tu vois en effet les sneakers de l'époque des basketteurs, donc au courant 80-90, enfin surtout 90, c'est de la grosse chose.
C'est
du gros modèle, quoi. Et très montante, ouais. Voilà. Très montante.
Aujourd'hui, il y en a très peu de
montantes. Aujourd'hui, c'est tout léger.
T'es limite en dessous de la cheville, hein, actuellement. Hein.
Pourquoi, au loisir, on a toujours un copain qui se fait la cheville chaque semaine.
Ah, ouais. N'empêche que c'est vrai que, pour revenir à ça, c'est que les Patty Wing, elles sont impressionnantes.
Elles sont vraiment.
Le modèle qu'on peut avoir actuellement, on va dire ça comme ça, voilà. C'est impressionnant.
Non, j'en ai eu il y a très très longtemps. Mais
elles devaient être lourdes, non?
Elles étaient lourdes, ouais. C'est parce que c'est bourré de. C'est vachement molletonné, c'est très. Voilà. C'est pas, moi, je n'ai pas trouvé ça très confortable. D'ailleurs, il n'a jamais joué avec, hein, Patrick.
Ah, l'escroc. Okay, ouais. Okay.
Si, là, enfin. Je n'aimais pas.
Voilà. Mais en fait, il a créé la basket pour faire du basket. Ouais. Mais lui-même, je suis pas sûr. Si, je crois qu'il les mettait peut-être,
si,
mais pas.
Quand même qu'il les mettait.
Oui, il les mettait, mais.
C'est une mauvaise début, pas... si tu fais pas tes pompes.
Si, il les mettait, mais. En fait, déjà, moi, personnellement, je suis pas trop fan de la couleur orange bleu. Tu vois, j'aime bien New York, hein.
Attention, fais gaffe, il y a Nick Nation qui nous dit.
T'inquiète. Mais ça faisait.
Qu'est-ce
pour
que
moi...
t'as contre l'orange et bleu?
Non,
c'est quoi
ça faisait, pour moi, ça faisait trop joué, un peu, tu vois. Trop... Bon, bref, c'est mon avis personnel, tu vois.
Mais
le côté J. Joe, c'est ça?
Non, c'est ça, c'est pas
bête. Attends, pas le micro, parce qu'on t'entend.
Non, mais en 2011, ils n'ont pas justement ressorti la marque.
C'est exactement, ouais, ils ont ressorti. Ils ont,
des sneakers.
Exactement, ouais, en 2012, 2011, 2012, ouais. Ils ont ressorti toutes les modèles de Ewing, notamment le modèle le plus connu, c'est le 33i.
Ouais, c'est ça. Oui.
Ouais, qui est sorti en 90 ou 91, justement, le modèle orange et bleu, ouais. Avec le gros 33 derrière, le gros Ewing derrière. Inscrit. Ouais. Et pourquoi il a inscrit le Ewing derrière ? Parce que il s'est inspiré directement des Nike Dunk avec lesquels il jouait à Georgetown. D'accord. Parce que Georgetown, c'est les Nike Dunk rebaptisés Terminator en 85. Parce que, le film Terminator dans c'est Kyle Reese. Là,
Kyle Reese, c'est
ouais, il les porte.
Il y a même une scène où c'est un product placement. Quoi. Voilà, on voit bien le mec qui met la Nike.
C'est ça,
voilà.
Exactement. Ah, exactement.
Placement de produit, hein, clairement.
Donc voilà, donc, du coup, Pat Ewing s'est inspiré du Oyas qui était inscrit en gros sur le talon des Nike. Et à la place, il met Ewing.
Ouais, ça, c'est marrant. Voilà.
Bah, écoute, super.
Donc, voilà. Donc là, on peut les retrouver, hein, les Ewing. Je crois qu'encore, à Footlocker, il est.
Oui, maintenant, c'est... Ouais, au moment où elles ressortent, en effet, 2011-2012, c'est galère d'en avoir. Maintenant, des Ewing, tu peux en avoir facilement. Ouais,
ouais, enfin, voilà. Facilement. Après, bon, moi, je suis pas un vrai fan. Après, ça s'est développé.
Ouais, c'est plus un objet de mode, là, franchement.
Oui, c'est de son
point de vue. Ça se porte pas en vrai. Des coloris sympas, verts, un peu.
Ouais, c'est ça. Il y a des collaborations aussi avec. Il y a eu des groupes de rap, EPMD par exemple. Parce que moi, EPMD, c'est ma référence.
EPMD, au hip-hop. Oui, effectivement, maintenant que t'en parles.
Des fois, les chaussures, ça sert aussi à faire passer des messages. Hein, Jimmy Butler ?
Oui, ça va.
C'était belle, ces chaussures en violette et orange, hein, avant-hier.
C'est vrai qu'il est incapable de fermer sa gueule.
Ah oui, c'est son gros problème.
Il parle avec ses pieds. C'est ce qu'on appelle un appel du pied à Phoenix.
C'est beau. Tu l'avais préparé, mon
frère ? Non, je ne l'ai pas préparé, mais vu qu'on parle de chaussures et que.
Enfin, donc voilà. Donc voilà, les Pat Ewing. Donc de Ewing Athletics.
Et puis
son contrat, non, il a, je crois qu'il a terminé, c'est en 94 ou 96 où les Wings ne se sont plus vendus. Puis il a signé un contrat avec Nike.
Il est parti chez Nike,
Nike. Donc voilà.
Non, merci Rémi pour ta chronique, c'était encore super instructif. Et en fait, on devait faire un buzzer beater. Est-ce qu'on a
Vas-y.
Le buzzer beater, donc je vais pas mettre le jingle parce que ça nous prend trop de temps, mais beaucoup. Vous savez que pour parachever de toute émission de Money Time qui se respecte, on pose une question. Et aujourd'hui, la question que je voudrais vous poser, mais il va falloir être très concis dans vos réponses, c'est New York peut-il rêver plus grand ?
Réponse
après la révolution de cet été.
J'appelle un ami.
Après la révolution de cet été à New York et le départ des cadres importants, hein, qui ont contribué quand même au parcours épique des Knicks lors des derniers playoffs. Hartenstein, DiVincenzo, Julius Randle, même si voilà, c'était quand même un joueur.
Ah oui.
Puis il était blessé, Randle.
On s'était posé la question en début de saison, la première, je crois, si Mikal Bridges et Kat étaient une plus-value pour New York et pouvaient leur permettre de viser plus haut. Alors là, on arrive à mi-saison, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? New York, est-ce que New York a pas perdu son âme défensive en venant en faisant
ça? Puis le coaching. Le coaching fait que. Non, les gars, faut voir la copie, sinon ça peut pas aller super loin. Tu vois. C'est mon avis.
Y a plafond là, ils sont 3. Moi, je pense qu'ils vont finir 4-5, donc c'est-à-dire sur les places de l'année dernière. Donc il n'y a pas de plus-value. Par contre, ça va dépendre trop des blessures, cette franchise. Mmh. S'il y en a un qui se pète, ils feront pas grand-chose. Mais s'ils sont au complet, pourquoi pas viser une finale de conf ou une demi, et pourquoi pas créer l'exploit.
Et puis c'est toujours pareil, jouer au Madison Square Garden, personne ne veut jouer au Garden, quoi. Ils n'auront pas la...
Tout le monde est toujours motivé quand même pour, normalement, pour jouer au Garden. Hein. On a parlé de...
Motivé, mais bon...
Kobe, 61
c'est plus
points,
le même public un... aussi, quand tu arrives dans les playoffs. C'est plus le même public. Là, on a un public, en saison régulière, tu as souvent un public de... un peu de touristes, quoi. Quand tu arrives aux playoffs,
oui, c'est
une autre ambiance. Quoi.
Ouais, okay.
Mais moi, je faisais partie de ceux très sceptiques de l'arrivée de Towns à New York en pensant que ça allait trop leur changer leur jeu pour être compétitif. Et en fait, ils y sont directement. Mais après, ils ont complètement changé aussi leur manière.
Moi, ce qui me fait peur, c'est leur défense. Parce qu'ils ont deux joueurs clés, deux energizers, je dirais, Hart et Aminobi, qui peuvent prendre des missions défensives incroyables, qui sont présents au rebond. Ils ont une dimension athlétique, c'est un mec qui est juste incroyable. Mais moi, ce qui me fait un peu peur, c'est sur une campagne de play-off où il faut verrouiller vraiment l'équipe adverse. Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour aller au bout ?
Moi, ce qui me fait plus peur au niveau des Knicks, c'est plus au niveau de l'intérieur. Parce que c'est vrai que Kat, il est quand même, il est quand même bien seul.
Ouais, hein,
il est comme, bah...
Et puis c'est pas la défense, c'est pas son truc. Gobert avait réussi à le... À mon avis, c'était quand même plus... C'était Gobert, le lion de la défense
oui,
à Minnesota. Minnesota. Et puis il avait réussi à entraîner un peu Edwards et puis Towns dans le système, mais...
Puis en plus, je suis même pas sûr que ce soit une équipe qui va faire des trades ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'ils vont rester avec ce groupe. Et Adrien Kepura, hein, Tom Thibodeau, à toi de jouer.
C'est marche ou crève.
De toute façon, il a plus le droit à l'erreur.
Juste pour dire que Pascal, il nous fait signe de la montre. Là,
ah oui,
parce qu'il faut qu'on arrête, mais on est dedans, papa.
Ouais, on a toujours du mal à vous quitter, chers auditeurs. Alors pour terminer, juste un petit coucou. Moi, je voudrais juste remercier. Toute l'équipe là, et puis tous ceux qui sont dans le studio, parce que c'est vous qui faites vivre cette émission et qui la rendez si sympa, en tout cas animée. Et puis un petit coucou à Mathéo qui a bien taffé pour faire ça.
Ça bosse sérieux, hein, Mathéo.
Ouais, ça a bossé sérieux. Et donc bon, voilà, un petit coucou vite fait.
Bah, un petit coucou à David, ouais, qui s'est fait la cheville jeudi. Courage, copain, ouais. Quoi. Voilà,
bon établissement. Ouais.
Allez, force à toi, hein. C'est ce que je dirais. Et puis aussi un petit coucou à Hassan. T'inquiète pas, on s'appelle demain.
Un petit message perso.
Un ancien de graphite, c'est pour ça.
Merci, messieurs, et à très bientôt pour.
Salut les potos.
Salut.
Bonsoir à vous.